Alors on accueille Marie Toussaint, notre affaire à tous, qui montre comment, quand les citoyens, on essaie de faire que les citoyens se réunissent pour avoir une action qui ait eu un impact différent. Peut-être pas plus, mais un impact différent. Voilà. Marie.
Bonjour. Effectivement, 2 130 000 personnes, et ça continue à monter. Si vous voulez le signer, vous pouvez toujours le faire. C'est sur l'affairedusiècle.net. Je fais la petite page de pub et je referme la porte. Mais c'est intéressant ce que disait Julien, parce que on parle d'histoire de changement, de grands changements, mais on parle aussi d'histoire de personnes. Et moi, je voulais commencer par vous raconter les histoires de 3 jeunes femmes qui sont en train de se mettre en mouvement à travers le monde et de faire naître une espèce de conscience planétaire, un combat planétaire pour préserver justement ce qui nous est commun, le climat, mais aussi la biodiversité, les océans, l'eau potable. Et ces filles-là, c'est peut-être en premier Giuliana. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'affaire Giuliana contre Donald Trump. Mais on n'est pas tout seul dans le monde à agir en justice contre l'État ou contre les multinationales. On est de plus en plus nombreux. Et Giuliana, ça a été l'une des premières. C'est une adolescente américaine. Et elle a très tôt saisi la justice contre son État fédéré américain, puis contre l'administration américaine. À l'époque, c'était le gouvernement Obama. Aujourd'hui, c'est l'administration Trump. Et donc, ça devient de pire en pire et de plus en plus urgent. Et elle a mobilisé avec elle des dizaines de milliers de jeunes Américains. Elle a essaimé tellement qu'une autre jeune femme, Jamie Margolin, a pris son relais l'été dernier. Elle a fait marcher des dizaines de milliers de jeunes devant le Capitole pour réclamer l'action climatique. Et aujourd'hui, ils se battent devant les tribunaux pour que simplement le tribunal accepte d'accueillir cette plainte qui demande simplement le droit à un avenir de la part de ces jeunes femmes qui ont envie de grandir et un droit à un climat stable, puisque aujourd'hui, aux États-Unis, mais aussi en France, on a un droit légal à une économie stable et non pas un droit légal à un climat stable. La deuxième personne dont je voulais vous parler, alors j'en ai plein en tête, mais c'est Camilla de Colombie. Camilla de Colombie, de la même manière, elle a été, et sa vie a été mise en danger par le réchauffement climatique qui frappe la Colombie peut-être que d'autres, plus que d'autres États dans le monde. C'est souvent les pays les plus pauvres et ceux qui sont sur l'équateur qui souffrent en premier du réchauffement climatique, qui habitent aussi en forêt amazonienne et donc qui sent profondément l'impact de ce réchauffement sur sa vie. Et Camilla, de la même manière, avec 24 camarades, elle a saisi la justice et ils ont gagné en avril dernier. Ils ont gagné face à l'État colombien et ils ont réussi à obliger l'État colombien et l'ensemble des régions colombiennes à mettre en place des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre contraignants et dans des mois très courts, et des plans contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre adossés à un plan de lutte contre la déforestation, mais aussi à octroyer un statut, une personnalité légale à l'Amazonie, c'est-à-dire à faire déclarer des droits à la nature. Camilla, elle l'a porté en disant une chose, en fait, la situation de l'environnement, la situation des jeunes et des générations futures, la situation des communautés autochtones et des plus pauvres, c'est la même. Et la Cour lui a donné raison en disant l'environnement et le social ne font qu'un. Et aujourd'hui, on est en train d'attendre de voir est-ce que la Colombie et les régions colombiennes se sont mises en marche pour mettre en œuvre ce qui leur avait été demandé par la Cour. Mais en tout cas, on a là une grande décision qui est assez importante. Et puis la troisième histoire, c'est celle de Greta Thunberg. J'imagine que vous avez entendu parler de cette jeune Suédoise qui s'est lancée en septembre dernier dans une grève par semaine du lycée pour le climat. Elle embarque à sa suite des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes, notamment à travers l'Europe, mais en Australie aussi, aux États-Unis aussi, avec un message très fort, on n'a plus le temps. Et aujourd'hui, on se l'est dit déjà à plusieurs reprises depuis ce matin, pendant longtemps, on a dit ça va être la catastrophe. Vers 2030, 2050, on va plus s'en sortir. Et pourquoi l'humanité a besoin d'être devant le mur, de faire face au mur pour pouvoir changer de braquet. Et aujourd'hui, on y est. On a vu rien qu'en France, les canicules, les sécheresses cet été, les inondations dans l'Aude. On voit qu'elles font des victimes humaines. On voit que par ailleurs, ces victimes humaines sont souvent les plus vulnérables, qu'elles font aussi des victimes non humaines, et c'est le vivant. Mais on sait qu'on n'a plus le temps, que normalement, on est censé avoir un pic d'émissions en 2020 si on veut pouvoir avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré, comme s'y sont engagés l'ensemble des États de l'accord de Paris. L'accord de Paris, ça fait 3 ans, ça a été adopté en France. Il n'y a que 16 États sur 197 qui ont adopté des lois pour respecter l'accord de Paris. Sur ces 16 États, plusieurs sont déjà aussi poursuivis pour manque d'atteinte des objectifs qui sont fixés, qui ont été fixés dans des laps de temps courts, par exemple le Canada qui continue à exploiter les sables bitumineux. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les dirigeants de ce monde continuent à nous tenir des grands discours et en disant qu'en fait, comme le gouvernement français a répondu à l'affaire du siècle ce matin, ils font déjà tout ce qui est en leur possible et qu'en fait, on a besoin que les comportements changent, que ce soit les individus qui changent tout seuls, comme si l'État pouvait complètement se départir de toute responsabilité, comme s'il n'avait pas la main sur les infrastructures, comme par exemple les transports ou le logement, comme s'il n'avait pas le pouvoir de coercition du secteur privé et d'obliger par exemple les grandes banques qui donnent encore 4 milliards d'aides directes aux énergies fossiles en Europe chaque année à se retirer des énergies fossiles et à aller financer des projets qui peuvent nous faire du bien à nous et à la planète. Et donc ce qu'on leur dit tous ensemble partout autour du monde, on a déjà 1250 actions climatiques en justice climatique qui sont portées, ce qu'on leur dit c'est qu'en fait on ne peut plus attendre, qu'il faut tout changer, que c'est possible. Et notamment en France, avec l'affaire du siècle, ce qu'on a montré, c'est que voilà, on a encore beaucoup à contrôler, à réguler ce que fait le secteur privé, notamment Total, qui est la 19e pollueuse mondiale. Il y a 25 firmes seulement qui ont émis 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988, et on a pollué autant depuis 1988, alors qu'on savait les causes et les conséquences du réchauffement climatique, qu'on n'avait jamais pollué auparavant. Et donc on sait que ces 25 firmes, on peut les contraindre à sortir des énergies fossiles, on peut les contraindre à polluer, et ça c'est le devoir des États. On sait aussi que les États ils peuvent financer la rénovation thermique. On a beaucoup essayé de nous opposer aux gilets jaunes. Au moment où on a lancé l'affaire du siècle, on nous a dit « mais c'est gilets jaunes contre gilets verts ». On a dit « non, en fait, la rénovation thermique, la France est en retard de 22% sur cette trajectoire en matière de bâtiment. La rénovation thermique, c'est bon pour les plus précaires qui payent des sommes incroyables de factures énergétiques dans des passoires thermiques. Et c'est aussi bon pour le climat. Et en fait, les mesures qui sont bonnes pour tout le monde, et notamment pour les plus pauvres et pour le climat, en fait, eh ben, c'est les mêmes et on peut vraiment les mettre en œuvre. Voilà, et donc on a lancé ça avec plein de gens. On était 4 ONG à la base, notre Affaire à tous, qui est l'association que j'ai créée il y a plusieurs années. On a été rejoints par Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme, mais aussi 2 groupes de youtubeurs. Il est prêt, on est encore temps, et Cyril Dion et des personnalités qu'il a réussi à mobiliser. Et notre idée, c'était de raconter une histoire, et donc ça rejoint aussi ce que vous essayez de faire aujourd'hui. De raconter une histoire. Cette histoire-là, c'est que si on est ensemble, si on est nombreux, eh ben, on peut vraiment leur faire prendre conscience qu'il faut tout changer, on peut les pousser à tout changer, et que d'ailleurs, s'ils ne le font pas, on continuera à se battre devant les tribunaux, et s'il le faut, dans la rue, comme le fait Greta Thunberg.
Merci beaucoup, Marie.
Et j'ai personne à entrer.